BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, on va parler de l'humain. Toutes les boîtes font de l'humain leur valeur fondamentale. Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question qu'on va poser à Marc-Henri Bernard, DRH de Rémy Cointreau et ancien handballeur professionnel. Et puis, qu'est-ce qui va vous donner envie de revenir au bureau, son organisation, les locaux? Qu'est-ce qui va se faire en matière d'innovation en cette rentrée 2021? C'est la question qu'on va poser à Mickaël, locaux de chez Steelcase. Et puis, les contentieux commencent à émerger avec le télétravail. Il y a ceux par exemple qui ont déménagé, qui ne veulent pas revenir dans leurs locaux. On va en parler avec un avocat. C'est Thierry Meillat, avocat associé chez Hogan Lowells. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Marc-Henri Bernard. Bonjour, vous êtes le DRH de Rémy Cointreau, ancien handballeur professionnel. Rémy Cointreau, c'est 2000 personnes, une entreprise qui produit bien sûr et commercialise des cognacs, des liqueurs et autres spiritueux d'exception. Vous êtes arrivé par les RH un peu par hasard. Est-ce que ça vous plaît toujours ?
Écoutez, bonjour d'abord, et merci de votre invitation. Oui, je suis toujours intéressé par les RH. En fait, je suis tombé dans la marmite il y a plus de 30 ans maintenant, et après avoir commencé un cursus en finance et être assez rapidement orienté vers les ressources humaines, et depuis en fait j'ai plus quitté cet univers qui est passionnant et qui me permet de vivre ma passion justement pour ce métier.
Vous avez commencé par les plans sociaux, pourtant c'est pas le plus simple, mais ça vous a plu?
Ça m'a plu dans le sens où c'était l'accompagnement des collaborateurs qui étaient en difficulté, donc à la fois pour les accompagner vers l'extérieur, pour ceux qui ne pouvaient pas rester dans le groupe, parce qu'à l'époque c'était chez Essilor, et puis pour certains, pour les aider à faire une mobilité en interne et permettre un reclassement en fait. Donc c'est comme ça que j'ai goûté en fait aux ressources humaines, et ensuite j'ai basculé sur la fonction ressources humaines elle-même, puisqu'à l'époque j'étais pas sur la fonction ressources humaines mais sur la fonction finance, en charge des cordons de la bourse sur les plans sociaux notamment. Mais ça m'a donné le goût en fait de cette matière, et ce goût ne m'a plus jamais quitté en fait.
Vous dites que vous avez le goût de l'humain, des relations. Moi je vous avoue que j'entends ce mot humain toute la journée, je ne sais plus quoi mettre derrière. Ça veut dire quoi une boîte qui a des valeurs humaines?
Des valeurs humaines, d'abord, c'est des valeurs tout court. Donc déjà, avoir un set de valeurs assez clair pour que les gens puissent s'y retrouver et s'identifier. Et ensuite, avoir des comportements qui soient raccord avec les valeurs en question. Pour vous donner l'exemple de Rémy Cointreau, on a quatre valeurs que sont les hommes, le temps, les terroirs, tout ça pour faire des produits d'exception. Et une fois qu'on a défini ces valeurs, qu'on a communiqué à l'ensemble des collaborateurs du groupe, on a défini des comportements qui était en concordance avec ces valeurs. Et donc, on a défini des référentiels, en fait, à la fois pour les managers et les non-managers, pour leur permettre, en fait, de vivre les valeurs au quotidien et s'assurer, justement, que toutes les personnes sont bien raccord avec nos valeurs.
C'est-à-dire que vous avez fait une liste de comportements à avoir et une liste de comportements à ne pas avoir?
Absolument. Alors, non pas à ne pas avoir, mais c'est plutôt ce à avoir. Par exemple, dans un des comportements attendus, il y a la coopération, jouer collectif et la coopération. Donc ça, c'est un élément très fort chez nous. Et donc, on peut, au travers, par exemple, de l'évaluation annuelle ou de la fixation des objectifs annuels, demander à un collaborateur de travailler sur cette dimension de coopération, par exemple, si le manager considère qu'elle n'est pas suffisamment présente, et observer au fil du temps, en l'aidant, bien entendu, s'il y a un progrès ou non. Et puis l'année suivante, ça sera une autre valeur, et ça pourrait être différent. En tout cas, c'est customisé par collaborateur. Et donc, au recrutement, ce qui nous importe, nous, justement, c'est de trouver des collaborateurs qui matchent avec ces valeurs, et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise derrière, qu'il n'y ait pas d'erreur de casting de part et d'autre, pour qu'au bout d'un moment, on soit obligé éventuellement de se séparer parce qu'on a considéré qu'on n'était pas fait pour vivre les uns avec les autres.
Mais comment vous faites pour vérifier chez des candidats potentiels que vous partagez justement les mêmes valeurs?
C'est tout le travail des recruteurs. Alors, on a une direction des talents dont c'est le métier. En fait, on a internalisé la direction des talents, c'est-à-dire que tout le recrutement qui était fait jusque-là, il y a encore 7 ans, à l'extérieur par des cabinets, en fait, a été totalement internalisé au sein d'une direction des talents.
Vous utilisez plus de chasseurs de tête?
Très rarement. Très peu. Très rarement, très peu. Vraiment, quand on ne sait pas faire autrement, sur des métiers qui sont vraiment très particuliers, si par exemple, je vous dis qu'on cherche un maître de chais, on ne va pas être capable de le trouver nous-mêmes, on va faire appel à des agents spécialisés, ou des métiers de l'informatique extrêmement pointus, là aussi, où c'est extrêmement compliqué de trouver des profils assez rares. Mais sur le reste, en fait, on a tout internalisé, ce qui permet de les passer, entre guillemets, au tamis des valeurs. Et pour répondre peut-être par anticipation à une de vos questions, enfin, ce qui nous importe, c'est pas tant les compétences, le parcours, mais c'est la personnalité, en fait. Et vérifier que la personnalité correspond au set de valeurs Rémy Cointreau. Et si c'est pas le cas, ben, on préfère ne pas prendre le risque et dire au candidat qu'il n'est pas fait pour cette organisation.
Mais ça veut dire test de personnalité?
Non, il n'y a pas de test de personnalité. Ce sont vraiment des entretiens. Donc, des entretiens avec les ressources humaines et avec les opérationnels. Il n'y a pas de test, en fait. Mais ça nous permet déjà de décrypter et puis de sélectionner. Alors, comme ce n'est pas une science exacte, le recrutement, évidemment, il y a des erreurs, parfois. Et des personnes se révèlent, malheureusement, un peu tardivement, en contradiction avec nos valeurs. Et là, en général, on est obligé de se séparer. Mais ça reste relativement marginal, évidemment, sur la masse.
La crise sanitaire, le télétravail, ça a été un bon défi pour justement la gestion de l'humain. Qu'est-ce que vous avez préconisé à vos managers vis-à-vis de leurs salariés ?
Alors, en fait, nous, on a toujours été dans une logique de communication à outrance, entre guillemets, à la fois de la direction générale, mais aussi de l'ensemble des managers, pour garder le lien, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour permettre aux collaborateurs de ne pas se retrouver seuls en télétravail, dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, je pense notamment aux personnes qui ont des enfants en bas âge, etc. Donc, on a communiqué très, très largement, on a essayé de maintenir le lien au travers d'activités diverses et variées, par exemple des conférences sur le bien-être, sur comment rester en forme, donc des choses qui ne sont pas directement liées au business, mais qui permettent aux collaborateurs de s'y retrouver et d'avoir un meilleur équilibre, en fait. Et une autre chose qu'on a faite également, et je pense que ça a bien incarné nos valeurs et le fait qu'on est une entreprise familiale, soucieux des collaborateurs et, je dirais, de son écosystème, c'est qu'on a pris un certain nombre de dispositions pour passer la crise. Donc, la première chose, c'est qu'on a renoncé aux aides de l'État. Donc, tout ce qui était chômage partiel, on a renoncé en considérant qu'il y avait plus mal loti que nous et que certaines entreprises étaient vraiment en très, très grande difficulté. Et donc, nous, on avait la capacité à passer la vague. En tout cas, c'est ce qu'on pensait et c'est ce qui s'est passé. Et de la même façon, on a pris un certain nombre de mesures sur, par exemple, des gels de rémunération pour le comité exécutif, des réductions de bonus, des réductions...
Ça, vous pensez que c'est important pour les salariés en termes d'image, le fait d'avoir dit
Je pense. Je pense que ça montre le côté citoyen de cette organisation, le côté altruiste, en fait. Et donc, on a essayé de gérer par nous-mêmes cette situation. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que nos valeurs en sont ressorties grandies, finalement. L'engagement est renforcé, finalement, auprès des collaborateurs qui ont bien vu que, finalement, nos valeurs n'étaient pas juste des valeurs affichées au mur, comme c'est souvent le cas dans certaines entreprises, mais qu'elles étaient vraiment incarnées, vécues, et qu'on pouvait revendiquer d'avoir été, sur ce coup-là, plutôt exemplaires.
C'est désormais plus l'État qui organise le travail et le télétravail au sein de l'entreprise. Chez vous, vous êtes organisé comment ? Vous avez négocié les jours de télétravail ?
Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de la sortie du premier confinement en 2020 pour demander aux collaborateurs, au travers de différents groupes de travail, de nous faire des recommandations sur l'après-confinement. À l'époque, évidemment, on n'imaginait pas avoir cette durée de confinement et ces nouveaux confinements successifs, ces nouvelles vagues successives. Et donc, ce groupe de travail a fait un certain nombre de recommandations dont il est sorti qu'on passerait, la recommandation, c'était de passer à 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail. Et donc, on avait dit, dès qu'on sortira de la situation de pandémie, on basculera dans ce nouveau mode, donc un jour fixe et un jour flexible, qu'on peut positionner quand on veut dans la semaine. Et puis, de confinement en confinement, cette organisation n'a jamais vu le jour. Quand on a pu revenir au bureau en présentiel, on est passé justement en mode 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, c'est-à-dire qu'on était déjà en mode post-Covid par anticipation. Et donc là, l'idée, c'est à partir en gros du mois d'octobre, puisque la contrainte en fait du télétravail n'existe plus dans le protocole national, c'est de passer justement sur ce système de 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail. L'idée étant aussi que le centre de gravité doit quand même rester dans l'entreprise pour garder le lien et pour que les gens puissent se voir et travailler ensemble.
Alors, comment on donne ce plaisir, cette envie de revenir, de revoir son équipe? Comment on fait une fois qu'on sort du télétravail obligatoire?
En fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les gens sont déjà revenus en présentiel et ils ont tous apprécié de revenir parce que tout le monde... Les gens n'en pouvaient plus, évidemment, d'être dans cette situation. Et surtout, ça correspond aux souhaits exprimés par les collaborateurs, puisqu'en fait, on a fait un petit sondage, parce qu'en fait, on va déménager le siège dans quelques mois, et on en a profité justement pour leur demander quels usages ils allaient faire du télétravail. Et aux 2/3 d'entre eux, je parle des collaborateurs du siège, ils nous ont répondu qu'ils allaient prendre 2 jours de télétravail. Donc c'est vraiment, ça répond complètement aux attentes. 20% d'entre eux nous ont dit « je ferai une journée de télétravail par semaine », et à peu près 13% nous ont dit « je ferai une journée de télétravail de temps en temps ». Donc c'est vraiment massif. Donc c'est un changement en fait de mode de fonctionnement que finalement on a accompagné, anticipé et dans lequel les gens vont se retrouver puisqu'ils pourront, entre guillemets, ne venir que 3 jours par semaine au bureau.
Est-ce que du coup vous avez changé des choses pour votre nouveau siège? Est-ce qu'il est plus petit que prévu, organisé différemment?
Alors il est organisé différemment, c'est-à-dire qu'il est plus grand. ce qu'on a déjà anticipé.
Ah bon?
Oui, il est plus grand qu'avant. Il est plus grand qu'avant pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a anticipé la croissance sur les prochaines années en termes d'effectifs.
C'est 100 personnes par an à peu près, votre.
Non, quand même pas, parce que sur le siège, on est 150, donc on n'est pas sur des grands nombres, mais on sera 200 dans moins de 5 ans, très probablement. Donc, on a anticipé ça. On a pris une décision qui est de passer en flex office, puisque compte tenu du fait que les gens ne seront pas là 5 jours par semaine, c'est pas nécessaire d'avoir des bureaux attitrés. Et en revanche, les mètres carrés dégagés par le flex office, on les redistribue sur des espaces collectifs. Donc, pour faire de l'innovation, pour de la convivialité, pour un certain nombre d'activités, pour que les gens se retrouvent. Parce que l'un des objectifs, et c'est ce que vous soulignez, c'est qu'il faut que les gens aient un intérêt à revenir au bureau. Donc il faut qu'on ait les occasions, en fait, de pouvoir les réunir dans de bonnes conditions pour faire des choses intéressantes. Parce que sinon, ils vont nous dire.
On ne vient pas pour se mettre dans une petite case avec une petite barrière, un petit ordinateur. Donc
exactement.
Ces espaces collectifs, on va en parler dans un instant avec Steelcase, justement, de la réorganisation des bureaux. Vous êtes sur LinkedIn?
Oui.
Est-ce que vous répondez quand on vous envoie des messages?
En général, je réponds oui. Oui.
Vous l'utilisez de manière...
Ça
vous savez
des...
ce que vous dites, j'imagine, mais en tout cas, si on émet l'envie de rejoindre Rémy Cointreau et qu'on vous parle directement, vous répondez.
Oui, absolument. Je réponds un peu moins aux prestataires qui sollicitent des rendez-vous pour des activités commerciales.
Ça sert aussi à ça, LinkedIn. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Marc-Henri Bernard, DRH de Rémy Cointreau, et on va parler organisation du travail.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
Quels aménagements dans les bureaux d'aujourd'hui et demain pour avoir envie de se retrouver, l'envie de retourner au bureau? On est avec Mickaël Locaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président Europe du Sud et Afrique de Steelcase. Steelcase s'occupe d'organiser, de faire de beaux bureaux dans lesquels on a envie d'aller. Qu'est-ce que vous remarquez là dans cette tendance de rentrée? Est-ce qu'il y a des décisions financières qui sont prises dans les bureaux?
Alors oui. Bien sûr, et il y en a beaucoup, et ça a beaucoup évolué entre le début de la pandémie et aujourd'hui. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu des changements fondamentaux, et les entreprises, et surtout les salariés, s'attendent à mieux. Ils veulent revenir au bureau, mais pour mieux.
Et alors mieux, c'est quoi?
Alors mieux, c'est plein de choses. La première chose, c'est mieux, c'est pouvoir avoir ce qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient chez eux. Alors pour certains, c'était pouvoir collaborer et interagir avec leurs clients. Et pour d'autres, c'est aussi pouvoir mieux se concentrer. Et donc on voit que les espaces de travail, contrairement à ce que l'on peut dire de manière générale, c'est pas juste la collaboration qui va être nécessaire, mais c'est une diversité d'espaces. Et c'est cette diversité d'espaces qui va devoir être accentuée dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et on voit beaucoup de décisions dans ce sens-là.
On entendait le DRH de Rémy Cointreau nous dire à l'instant, moi, la crise sanitaire m'a donné l'envie pour mon futur siège de prendre plus de place, alors qu'en fait, il va y avoir moins de monde dans ces bureaux. Étonnant.
Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce que l'on observe beaucoup. Alors, le moins de place au début est surtout engendré par l'enjeu financier. Mais quand on regarde à l'enjeu humain qui est derrière, on se rend très vite compte, en faisant les calculs, que forcément, en voulant donner plus et mieux aux collaborateurs, il faut des espaces qui soient à même de supporter. Concrètement,
parce que l'immobilier, c'est un coût fixe énorme dans la charge des entreprises. On voit très bien quand même où est le calcul.
Oui, alors mais il faut
moins de
garder
gens, moins de place.
Oui, mais après il faut garder en tête que le deuxième coût le plus important pour une entreprise, c'est les gens, les people, et donc les garder, les maintenir et les garder motivés. Je pense que c'est un élément clé. Et donc, par exemple, nos études montrent qu'il y a un niveau de productivité qui a baissé, le niveau d'engagement aussi est très bas. Et donc, plus on est loin de son entreprise, plus on travaille de chez soi, moins on est engagé avec l'entreprise. Et d'ailleurs, de nombreuses études montrent que 3 jours de télétravail à la maison diminuent fondamentalement l'engagement et l'attachement à l'entreprise en comparaison à 2 jours ou une journée. Donc, avoir plus de surface, ça permet de créer une diversité d'espaces beaucoup plus importante. On peut creuser ça si vous
donc
le
souhaitez. Donc c'est quoi? C'est un bureau où je peux m'isoler. Ça va être le retour des fameuses salles silence qu'on voyait avant la crise sanitaire. Puis la cafette avec le bar à smoothie et le baby-foot, il va revenir?
Alors, peut-être. Ça, je sais pas. Ça va dépendre de l'entreprise. Mais surtout, il y a une chose qui a changé, c'est on intègre beaucoup de virtuel. Et donc, dans les modes de collaboration, la salle de réunion, avant, c'était des murs. Et une salle, et une pièce. Sauf que ça, la crise a montré que la réunion, la collaboration, c'était quelque chose qui pouvait être virtuel. Donc, au bureau, ça va être des espaces où on va intégrer justement le virtuel avec le réel. Donc, il va falloir changer. Donc, il va falloir que le physique que l'on touche là puisse se mélanger avec le virtuel. Et donc, ça va demander à la fois des investissements en termes d'espace, de réflexion de comment est-ce qu'on se positionne les uns par rapport aux autres pour pouvoir intégrer et réduire les distances avec le monde de dehors. Donc ça, c'est vraiment un concept de salle et de typologie qui sera différent. Donc
ça veut dire que ça va ressembler à quoi ? C'est-à-dire que Michel, il va être en hologramme depuis chez lui et donc il faut qu'il puisse s'intégrer comme s'il était là au bout de la table ?
Alors, il y a des choses comme ça qui sont en effet à l'étude, mais d'abord, restons, on va dire, sur les choses qui sont beaucoup plus concrètes et tangibles aujourd'hui. Quand tout le monde faisait des réunions avec différents outils, hein, Zoom, Teams ou autre, et tout le monde avait une taille comme ça... Quand vous êtes en réunion chez vous au bureau, l'interaction et le fait de vouloir intégrer les gens, c'est plus possible.
Donc il faut des grands écrans.
Il faut des plus grands écrans, il faut des écrans qui soient aussi mobiles, il faut des choses qui soient interactives pour pouvoir communiquer à l'intérieur et à l'extérieur. Vous écrivez sur votre papier ici, à la caméra, on ne voit pas ce que je suis en train de faire. Mais il faut pouvoir que tout ça puisse, que tout le monde ait le même niveau d'égalité.
Donc il ne faut pas sentir la distance. Il faut faire en sorte que celui qui n'est pas là ait exactement la même place que les autres.
Exactement, c'est le but. Il faut réduire les distances. Exactement. Et c'est un des enjeux majeurs. Et c'est pour ça que les collaborateurs vont revenir au bureau. Donc ça, c'est une des choses.
Donc ça, c'est la salle de réunion. Ensuite, les espaces de discussion, eux, ils vont ressembler à quoi ?
Alors, les espaces de discussion, je pense que les espaces de discussion, l'avantage majeur, ça va être qu'il va falloir qu'on ressente partout, en fait, ça sera une traduction des valeurs de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. On dit souvent que c'est dans ce genre d'espace que l'on perçoit... on va dire les choses un peu plus implicites et les valeurs de la culture.
Mais alors ça, en dehors du fait de mettre son logo partout, comment on fait ?
Alors, c'est pas juste le logo. C'est,
je vais vous donner... Du jaune ?
C'est ni les couleurs, ni les logos, c'est l'ensemble. Par exemple, quand vous rentrez dans une église, vous savez que vous devez baisser la voix.
Ouais.
Donc c'est à la fois les couleurs, la mise en scène, la manière dont c'est disposé. Et je vais vous donner un autre exemple très concret. Par exemple, si vous voulez avoir une culture d'innovation, une culture, on va dire, de... leadership plutôt que de management, eh bien, il faut que le leadership soit accessible. Si vous mettez le leadership dans une tour d'ivoire au 5e étage avec un ascenseur à badge, ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez avoir un leadership accessible, il faut le placer en mode accessible. Donc, il y a beaucoup de leaders et beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à comment placer le leadership aussi, le rendre accessible. Et moi, j'aime bien dire qu'il faut que le leadership puisse être touché. Aujourd'hui, on était passé du virtuel au leader qu'on va pouvoir toucher.
Et ça veut dire, une fois qu'il n'y a pas la tour d'ivoire avec le badge, que du coup, tous les espaces sont au même étage, etc., ça a vraiment un impact parce que quand on va dans certains sièges, par exemple, c'est à la MAF à Niort, ils ont la salle innovation où on est debout, la salle création qui est rouge.
Ouais.
Franchement, c'est ridicule. Enfin, est-ce que vraiment vous dites je vais aller dans cette salle pour créer ou finalement c'est trop pensé en fait ?
Il faut ce genre d'espace, il faut une vraie diversité parce que vous comme moi on est différents et on a besoin de stimuli différents. C'est la diversité qui fait la valeur et la richesse. Donc c'est pas une question de ridicule, je pense que il faut des endroits pour pouvoir stimuler, sinon ça ne marcherait pas, peut-être pour forcer le trait parfois.
Ce que je veux dire quand on dit ici c'est la création.
Non, justement, il faut créer des espaces. C'est un écosystème complet qu'il faut créer. C'est pas juste une salle d'innovation. On décide pas demain de 10h à midi, on va innover, on va trouver le produit de l'année. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait un écosystème qui permette cette innovation. Cet écosystème, c'est donc. Et quand vous créez, il y a des moments où on brainstorm, mais il y a aussi des moments où on se concentre. Donc il faut créer, mais derrière, il faut pouvoir aussi mettre ses idées sur le papier. Et donc c'est pour ça que vous parliez des salles silence. Oui, ces salles silence. Vont réapparaître et vont réapparaître d'une manière différente, avec des salles, des boîtes dans la boîte, des espaces clés, des étages dédiés. Mais il y a aussi à côté ces espaces collaboratifs. Donc c'est vraiment ce mix qui va permettre...
Ça va vous donner beaucoup de travail, cette suite de crise sanitaire. Merci beaucoup, Mickaël Locaux, d'être venu nous voir, vice-président Europe du Sud et Afrique de Steelcase. On a bien rigolé, on va parler contentieux maintenant.
Merci à vous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
C'est la fin du télétravail obligatoire et de l'organisation du travail par l'État, mais c'est aussi la fin du « on s'organise exactement comme on veut et je fais tout ce qui m'arrange ». Donc désormais, il y a quelques contentieux qui émergent dans les entreprises. On va en parler avec Thierry Meignat. Bonjour, vous
Bonjour.
Êtes avocat associé chez Hogan Lowells. Est-ce que vous voyez des contentieux émerger là, en ce début de rentrée ?
Encore très peu, mais il y en a quelques-uns. Notamment de la part de salariés qui, effectivement, pendant la période de télétravail imposée et totale, ont pris leurs dispositions, notamment, par exemple, ont pu déménager dans des lieux éloignés de leur lieu de travail et qui n'ont pas envie de rentrer dans le cadre des nouvelles dispositions qui sont mises en place dans les entreprises, soit par accord, soit par décision unilatérale après consultation des représentants du personnel, mais en tout état de cause, avec le plus souvent une obligation de revenir sur site quelques jours par semaine, parfois 3 jours, parfois 2 jours. Et donc, effectivement, pour des personnes qui désormais vivent à 900 km, parfois à l'étranger, c'est très compliqué. Ça peut créer des contentieux. Encore une fois, il y en a peu, mais ça existe. Ça commence à surgir.
Qu'est-ce qu'on peut faire valoir quand on est salarié et qu'on a décidé unilatéralement de déménager et qu'on dit bah, « moi, je ne reviendrai pas ». Donc, à vous de trouver une solution.
Alors, c'est pas vraiment dans ce sens-là que cela se pose, et d'ailleurs c'est toute la question pour les salariés. En fait, vous avez normalement maintenant dans les entreprises, en tout cas ça va être mis en place rapidement, des mécanismes donc de charte du télétravail. Soit vous rentrez dans le cadre de la charte parce que votre fonction vous permet d'être en télétravail tout le temps, soit effectivement vous allez demander une dérogation, mais le problème de la dérogation c'est qu'est-ce qu'on fait avec les petits camarades, parce qu'il faut savoir que l'employeur doit motiver un refus de télétravail pour un salarié qui, effectivement, demande à télétravailler, mais dans la mesure où le salarié respecte les dispositions de la charte. C'est-à-dire que si la charte dit « vous avez 2 à 3 jours de télétravail par semaine », c'est pas 5 jours. Et donc, si le salarié dit « moi, je veux 5 jours », l'employeur peut parfaitement lui dire non, parce que la charte dit que c'est 2 ou 3 jours dans votre cas, dans votre catégorie.
Mais vous dites qu'on peut faire des exceptions. Et là, on met le doigt quand même
voilà.
dans la difficulté. C'est quand l'entreprise commence à dire à Michel que lui, il peut exceptionnellement télétravailler. Là, ça devient l'enfer.
Ça devient très compliqué parce que Jacques va dire ah ben pourquoi lui et pas moi, surtout s'ils font la même chose ou si leurs métiers sont proches. Encore une fois, ça fonctionne beaucoup par le dialogue, mais je pense que les salariés doivent comprendre que, par exemple, s'ils ont fait des choix de vie personnelle pendant les confinements, c'est pas ça qui va leur donner la justification pour ne pas rentrer finalement dans le mécanisme. Et je pense que de la part des salariés, il faudra aussi qu'ils fassent preuve d'une certaine flexibilité au regard des dispositions qui s'appliqueront dans l'entreprise, surtout que, encore une fois, dans la plupart des entreprises, le télétravail est en train quand même de devenir une habitude.
Mais dire j'ai rescolarisé mes enfants, j'ai déménagé, j'ai réorganisé ma vie n'est pas un argument
non.
devant
Non, parce
devant
que, parce que d'ailleurs, c'est peut-être un peu paradoxal, mais le lieu de vie, le domicile, est une liberté fondamentale, selon la Cour de cassation, ce qui veut dire qu'on a le droit de le choisir. Mais cela n'a rien à voir avec le lieu de travail. Et en fait, vous pouvez vivre où vous voulez, à vous de vous organiser pour répondre aux exigences de votre employeur dans l'exécution de votre contrat de travail pour des raisons business. Et donc, effectivement, il y a des salariés qui n'ont pas bien compris la différence entre les deux. Mais encore une fois, le fait que vous ayez choisi ou de scolariser vos enfants n'est pas en soi une justification. Il faudra trouver autre chose.
Mais beaucoup pensent qu'aujourd'hui, le télétravail est un droit individuel du salarié.
Ce n'est pas le cas. C'est un droit dans la mesure où on respecte les règles de la charte et qu'effectivement, il y a une bonne raison business qui justifie que l'employé soit en télétravail. Mais il n'y a pas un droit absolu au télétravail. C'est encore une fois, il y a toujours l'intérêt de l'employeur qui prime au départ.
Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises ? D'être le plus précis possible dans leur charte ou justement de ne pas l'être trop pour pouvoir faire des petites exceptions à la marge ?
Je vais répondre les deux. C'est pas une réponse de Normand. C'est d'être très précis dans les règles, les catégories, qui peut, qui ne peut pas, dans quelle mesure, mais laisser une certaine flexibilité pour tenir compte quand même de situations familiales personnelles. Et à mon avis, ça peut être un sujet. Mais pas n'importe quoi, c'est-à-dire vraiment des situations compliquées pour des salariés. Et en plus, c'est une notion qui existe déjà en jurisprudence en matière de déménagement d'entreprise ou de choses comme ça, où on fait un cas particulier pour des salariés qui...
Là où c'est l'entreprise qui a déménagé, pas
voilà.
de salariés.
Bah, certes, mais c'est parce qu'on acceptait que des salariés ne suivent pas et qu'ils soient quand même indemnisés en disant « oui, mais il était quand même dans une situation familiale exceptionnelle ». Donc il y a ça, et surtout aussi essayer de trouver une certaine flexibilité, ce que font beaucoup d'entreprises, sur comment on positionne les jours de télétravail, en laissant une certaine flexibilité. Alors très souvent, il y a les deux. Il y a les jours obligatoires et les jours volants ou flottants. Mais cette flexibilité peut effectivement permettre de trouver des solutions. Mais sachant que quand même, à la base, le salarié va quand même devoir respecter l'organisation de l'entreprise. Hein. Mais
c'est bien, c'est bien. L'entreprise qui décide de l'organisation du travail.
Exactement. Il ne faut pas l'oublier.
De temps en temps, il faut le rappeler. Merci beaucoup Thierry Meignan d'être venu nous voir, avocat associé chez Hogan Lowell. C'est la fin d'Happy Boulot le mag. Je vous retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Même heure. Bon week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.